Les colloques du Collège de France.
S'il y a eu un accident déplorable dans les études scientifiques au sujet du Coran qui s'est produit ces derniers deux siècles, c'est certainement l'accueil des approbateurs qui a été réservé à l'ouvrage de Paul Casanova sur Mohammed et la fin du monde. Et on vient d'en entendre toute l'histoire, donc je ne vais pas développer cette idée. En tout cas, depuis, les études du Coran d'expression française ont pris une autre direction. On a eu un ouvrage que je trouve encore toujours fondamental, l'introduction au Coran de Régis Blachère de 1947, avec une seconde édition augmentée en 1959, et qui reste jusqu'à maintenant, trois quarts de siècle après, un instrument de travail utile pour les études de la rédaction, du développement du texte du Coran. Dans une même perspective, s'agissant du champ de l'intérêt qui s'est développé pour la constitution et la transmission du texte coranique, nous disposons maintenant de l'édition du fameux Codex Parisino Petropolitanus grâce à l'organisateur de ce colloque. Depuis, il n'est plus possible de postuler que la rédaction du Coran a été un long processus qui a perduré pendant plusieurs siècles. Même la prédication impensable de Snouk Ougrogne, One day or other we may expect to hear that Muhammad never existed, s'est entre-temps réalisée sans toutefois pouvoir convaincre la majorité des spécialistes. Heureusement, je dirais. Plutôt, nous avons l'impression qu'entre-temps, les polémiques se sont apaisées et un certain consensus s'établit lentement, du moins dans les milieux académique, car malheureusement, les publications idéologiques et islamophobes, souffrant en outre d'effets computationnels, véhiculant de la propagande politique et apologétique religieuse, dans les deux sens d'ailleurs, abondent sur le web, ce qui dérange beaucoup les recherches, comme je l'ai déjà dénoncé ailleurs. Néanmoins, l'état actuel de la recherche ouvre la possibilité à relever dans l'œuvre de Casanova ce qui reste valable. Citons par exemple David Cook dans son livre « Studies in Muslim Apocalyptic ». It is quite interesting to note that ideas not accepted at the time, like Casanova's idea that Muhammad and the early Muslims were driven by a belief in the imminent end of the world, are clear and obvious now. C'est sur cet aspect que nous voulons aujourd'hui insister. L'apocalyptique, l'attente de la fin du temps et la lutte finale contre les forces du mal et particulièrement la fonction du terme malhama dans un tel contexte. Le terme semble indiquer une forme spécifique de la bataille apocalyptique souvent lié à la personne du prophète et concernant une éventuelle prise de Constantinople. Il figure plutôt dans des textes chiites. La préférence pour Constantinople s'explique sans doute facilement, surtout au début de l'islam. Jusqu'à l'année 697, c'est-à-dire l'an 77 de l'Égire, les califes se sont limités à imiter des monnaies byzantines et sassanides d'ailleurs, parfois en y ajoutant une inscription arabe. Pendant les premières années de son règne, Abdelmalik était même obligé à payer une somme de tribut à Constantinople. Cela implique que jusqu'alors, les califes ont continué à reconnaître l'empereur de Byzance comme leur souverain. Les nouvelles pièces de monnaie à partir de l'an 77 impliquent donc une sorte de déclaration implicite d'indépendance et de souveraineté. La conquête de Constantinople devait alors être considérée comme l'expression ultime de la victoire de la nouvelle religion, qui est l'islam, bien que la ville impériale résistât encore pendant plusieurs siècles à la réalisation de cette ambition téméraire. Dans le Coran, le terme « malhama », auquel Casanova a attaché tant d'importance, le terme n'apparaît pas dans le Coran. Les mots dérivés de la racine sont rares. On n'en y trouve qu'une douzaine, dont quatre dans une phrase contenant une interdiction alimentaire et deux dans une description du paradis, donc ce qu'on pourra y manger. Jamais, pour ainsi dire, dans un contexte spirituel. Casanova a fait l'inventaire des occurrences dans les traditions que nous n'allons pas toutes énumérer. Intéressants sont toutefois les Kutub el-Malahim, avec la tradition chiite que cite Ignaz Golsir, selon laquelle de tels Malahim, se référant à tous les dirigeants futurs jusqu'au temps de la résurrection, auraient figuré dans l'exemplaire du Coran qui appartenait à Fatima, la fille du prophète. Un détail que Casanova n'a pas retenu dans son analyse. S'agirait-il de passages censurés ou du moins non retenus dans l'édition officielle canonisée du Coran? Steinschneider a observé que ce genre d'apocalypse continue une tradition juive et chrétienne qui explique et développe la prophétie de Daniel, en y joignant d'autres prophètes vétérotestamentaires comme Noé et ses fils, rôle qui est repris surtout dans la présentation chiite de la Malhama par l'aspect prophétique de Ali. Déterminer le sens précis de la notion de Malhama s'avère une tâche difficile et compliquée, bien qu'il s'agisse vraisemblablement d'un emprunt au syriaque. Problème est qu'il semble y avoir eu deux racines sémitiques de Lahama. Sont-elles homonymes ou y a-t-il néanmoins un rapport? La signification fondamentale de la première, Laham selon Orel Stolbava, serait en rapport avec de la nourriture, sens que l'Akkadien ancien aurait gardé puisque Lahamu y signifie se nourrir. En arabe, la racine a donné le mot pour indiquer la viande. En hébreu et en arméen, celui pour le pain. L'autre racine, l'ihum, selon Orel Stolbova dans leur dictionnaire de langue comparée sémitique, l'autre racine signifierait tuer, combattre. En arabe, par exemple, cela donne l'ohma, signifiant mêlé, combat acharné, corps à corps, carnage, mais aussi parenté. Dans un certain nombre de textes bibliques, rares il faut avouer, et parfois la lecture du texte n'est pas assurée, et ici nous ne pouvons entrer dans toutes les subtilités de la critique textuelle biblique, le hum semble avoir eu le sens d'entrailles, d'intestin. Fondamentalement, le terme signifierait quelque chose comme se connecter, être ferme, presser, serrer étroitement, joindre, constituer. Dans le livre de Job, le 20e chapitre, verset 23, touche encore mieux le sens fondamental du mot. Et je cite, « Dieu perce sa chair, ses entrailles, c'est-à-dire qu'il atteint les entrailles de l'impie. L'image est comparable à la fonction des aliments destinés à entrer par l'intestin et à être absorbés par les tissus du corps afin de les réconforter. Formulé et défini de cette manière, nous ne sommes pas sûrs si les deux formes de laham ou lichum ne sont pas homonymes ou pas. Nous avons déjà fait brièvement allusion, en invoquant une remarque de Steinschneider, à l'idée de la succession de la prophétie et des prophètes. Avec ce que nous venons de mettre en lumière comme le sens original de la racine de Laham, nous pouvons maintenant mieux comprendre ce qui a incité Casanova à poser la question suivante en son livre. On peut se demander si la Malhama n'est pas, à l'origine précisément, cette sixième résurrection du Christ et par suite, septième incarnation. Toutefois, Casanova continue son argument en admettant que pour rendre la notion d'incarnation, généralement tadjassout en arabe, à partir de laham, conformément au mot que l'arabe utilise généralement, tadjassout, pour rendre l'idée de l'incarnation, on s'attendrait en ce cas à un masdar de la cinquième forme, talahum. Comme Casanova, en invoquant une série de sources anciennes pour étayer son interprétation de Malhama, comme se référant à l'incarnation de la divinité, avoue n'avoir aucune explication pour cette anomalie grammaticale. Cependant, en islam, et même en ses formes chiites, y comprises les tendances exagérées du chiisme, ce qu'on appelle le rouleau, il n'y a point de consubstantialité de la personne du prophète ou imam avec la divinité qui reste dans tous les cas totalement unique et transcendante, pour ne pas dire inintelligible, en niant toute continuité ontologique entre la divinité suprême et la création. Il s'ensuit que l'islam, et notamment déjà le Coran, se rattache plutôt aux tendances subordinationnistes de la théologie chrétienne. Cela explique pourquoi la forme du mot « malhama » n'indique pas l'union de la divinité à un être humain de quelque manière que ce soit, mais plutôt, ainsi que l'avait d'ailleurs déjà correctement pressenti Casanova, le moment, le lieu où descend la divinité sur terre, l'être ou la personne dans lequel Dieu s'installe, sans toutefois se confondre avec celui-ci. C'est le sens profond de la Wasiya universelle, le principe prophétique qui se transmet de génération en génération de manière ininterrompue et d'un prophète à l'autre, principe qui prend possession et se sert chaque fois d'une nouvelle enveloppe humaine. Cette doctrine explique pourquoi Dieu a pu dire à son prophète, en sourate 8, verset 17, « Ce n'est pas vous qui les avez tués, mais Dieu les a tués. Tu ne lançais pas toi-même les traits quand tu les lançais, mais Dieu les lançait pour éprouver les croyants au moyen d'une belle épreuve venue de lui. » Fin de citation. Il n'y a même pas entre le principe divin de la prophétie et la personne de l'homme de Dieu un lien comparable à la, ce qu'on appelle en grec « synaphia », en syriaque, notion de la théologie nestorienne qui distingue néanmoins clairement la nature humaine et divine au sein de la deuxième hypostase de la divinité, et ce encore après la venue au monde du Christ. Il s'agit, dans le cadre de la prophétologie musulmane, surtout en sa formulation chiite, uniquement d'une forme d'inhabitation, hulul, en grec enoikesis, du principe divin. Le amr instauré par Dieu est ensuite transporté, naqala en arabe, d'époque en époque, chaque fois avec un nom et une qualité physique différents. Ainsi, nous croyons avoir pu montrer comment ce Amr, qui est descendu pendant la nuit du Qadr, de la sourate que nous avons déjà citée, et qui est évoqué en des termes grandioses dans cette sourate 97, n'est autre que la disposition divine comportant la nuit de l'investiture du prophète, pendant laquelle la Wasiya est descendue sur lui et a pris possession de sa personne, comme elle s'était investie de l'âme et du corps de tous les prophètes de l'histoire du salut qui l'ont précédé dans la tradition biblique, évidemment. Si cette interprétation de la sourate 97, Al-Qadr, est exacte, il s'ensuit que la doctrine de la Wasiya universelle est déjà clairement et explicitement attestée et énoncée par le Coran et est profondément ancrée dans la doctrine coranique. En réfléchissant bien à cette conclusion, il faut maintenant y ajouter un autre élément, pour le moins tout aussi important et qui nous rapproche, mais un peu d'une autre manière, ou faut-il dire plutôt par un certain détour, de l'interprétation de Guillaume Di, qui a reconnu dans la 97e sourate un ancien poème célébrant la fête chrétienne de Noël. Ainsi, nous voudrions rapprocher l'événement qui est commémoré pendant la Laylat al-Qadr du verset 41 de la 8e sourate, dans lequel le Coran évoque le Yawm al-Furqan, le jour de la salvation. Si la Laylat al-Qadr chante la gloire du moment où le salut est descendu sur terre, alors ce moment précis ne peut être rien d'autre que ce Yawm al-Furqan, jour de la salvation. Le verset 41 de la 8e sourate décrit comment deux jam'an se rencontrent, dont j'ai déjà essayé de montrer qu'il s'agit de deux principes de la prophétie qui se rapportent l'un à l'autre, comme les deux frères jumeaux, Mani et son frère, son sosie spirituel, si on me permet de le définir ainsi, et qui est ou sont les fondateurs du manichéisme. De même, selon Ibn Babouya, Ali et Mohammed étaient jumeaux selon leur ascendance spirituelle et prophétique, procédant du même principe lumineux qu'ils partageaient, puisqu'ils en possédaient tous les deux la moitié. Il s'agit du savoir exotérique, c'est-à-dire la prophétie, et d'autre part, le savoir ésotérique, c'est-à-dire son interprétation ou exégèse. Dans certaines personnes prophétiques, ces deux aspects de la révélation se retrouvent ensemble. Ainsi, selon une tradition apocryphe solidement établie, se sont unifiés au moment de la naissance de Jésus sa forme corporelle avec l'apparition d'un enfant angélique et lumineux, événement que les spécialistes irlandais de la littérature apocryphe ont appelé « The Light and the Child ». Et je cite « The light from above comes forth. The light withdraws in such a way that it is assimilated to the child, that it merges into him. » Cette idée d'une forme épiphanique de la divinité remonte finalement au Gvarna de l'Iran ancien, je ne sais pas si je prononce correctement parce que je ne connais pas la langue persane, malheureusement. Une colonne de lumière qui descend donc du ciel et s'unifie miraculeusement avec le corps de l'enfant sur terre. Des auteurs musulmans chiites ont établi des récits de la naissance de l'imam, surtout concernant l'imam Ali, qui semble pour ainsi dire calqué sur l'histoire apocryphe de la naissance de Jésus dans la grotte de Bethléem, avec une naissance de l'imam qui se serait déroulée à l'intérieur de la Kaaba, du sanctuaire de la Mecque. Détail important qui s'y ajoute, Fatima, mais il s'agit de la mère d'Ali, y mange des fruits du paradis, récolté de l'arbre que des anges auraient apporté et planté au ciel. Car c'était le même arbre qui, à la naissance de Jésus, aurait déjà procuré des dattes à la mère du Christ, selon le récit du Coran et selon l'évangile du pseudo-Matthieu. Il s'agit clairement d'un motif qui relève de la théologie théologique syriaque. Le transfert de l'arbre au paradis, inconnu du Coran, est un détail qui nous est connu par la littérature dite « Transitus Mariae » et que Shoemaker est un des grands spécialistes, n'est-ce pas? Le lien entre la naissance de Jésus et de l'élu de, du Dieu musulman est ainsi fortement établi. Les auteurs musulmans en avaient connaissance à partir d'une autre source du Coran, mais qui doit être extrêmement ancienne. Alors, ne devons-nous pas conclure que la malhama se compose de deux aspects différents. La manifestation de la divinité sur terre, pour transmettre sa forme épiphanique, son wasi, se concrétise d'une part dans le lieu où il va résider sur terre, lieu qui est son apparition corporelle dans la succession des prophètes au cours de l'histoire. Ce lieu est donc ce qu'on peut appeler sa personne, dans le sens étymologique du mot latin persona, le porte-parole à travers qui Dieu s'adresse à l'humanité, qui est sa localisation, mais sans qu'il n'y ait quelque forme d'incarnation que ce soit. Mais d'autre part, ce lieu est également l'endroit dans l'espace où cette incorporation indescriptible se réalise, c'est-à-dire, dans le cas de Jésus, le temple de sa venue au monde, qui est la grotte de sa naissance miraculeuse, Bethléem, et dans le cas du guide divin musulman, la Kaaba de la Mecque, Malhama, lieu de naissance pour le moins tout aussi miraculeuse et dont le nom est dérivé de la même racine, Lahama. Et puis, on pourrait se demander s'il n'y a pas eu un rapport secondaire avec le fameux hadith qui rapporte la parole prophétique « Moi et l'heure avons été envoyés comme ceci et cela, accompagné d'un geste de l'index et du majeur. » Et le prophète d'ajouter « L'heure ne viendra pas avant qu'il y ait eu beaucoup d'effusion de sang, mais il faut noter que le terme « Malhama » n'apparaît pas dans ce hadith. » Ainsi, comme Casanova l'a très bien pressenti, le prophète Mohammed est véritablement le Nabi el-Malhama, le Hatim Hatam el-Anbiya, celui qui a dû mener la guerre ultime contre les forces du mal et qui inaugura le règne de Dieu sur terre.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.